cordes 1222 avec Michel Bonnet. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes encore un peu dans les chaleurs de l'été, mais on va quand même entrer dans l'automne petit à petit. Et nous continuons notre programme sans de gros changements, c'est-à-dire toujours autour de Raymond VII. Par contre, je n'avais pas prévu l'émission d'aujourd'hui de cette façon, parce que vous savez qu'en septembre, peut-être certains d'entre vous sont venus à la dernière conférence que j'ai faite au Colombier sur Raymond VII et les croisades, les diverses croisades qu'il y a eu à cette époque-là. Et je me suis rendu compte qu'il était très difficile, il m'était très difficile de présenter Raymond VII dans ce domaine, disons plus ou moins, où se mélange le religieux et le politique, puisque la croisade, ça se faisait pas qu'à coup de goupillon, hein, et c'était du politique à fond, et en même temps c'était en référence permanente avec la religion, avec l'Église, avec Jésus, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y avait deux grosses difficultés de notre part à nous, vivant aujourd'hui en 2023. C'est que d'une part, quand on parle de croix, quand on parle d'église, quand on parle de Jésus ou de Dieu, on est gêné en quelque sorte par les images qu'on nous a mises dans la tête et dans le cœur, dans la vie même, de par notre éducation, de par l'ambiance dans laquelle on vit, parce que on a beau dire les uns et les autres, on est en République, mais on est quand même dans un pays à culture chrétienne. On peut qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on soit d'accord ou pas. Toute cette dimension de la vie, disons, intime à la fois à titre personnel ou intime à l'intérieur d'une vie de communauté, elle est marquée par la relation avec le christianisme et même plus précisément avec le catholicisme. On le voit encore très récemment, le pape est venu à Marseille, et bon, eh bien, bien qu'on soit dans la séparation de l'Église et de l'État, on a vu notre président de la République se précipiter pour aller faire une prière avec le pape, alors que, bon, c'est assez impensable, du moins de certains points de vue, c'est assez impensable, étant donné que la France n'est pas un pays plus chrétien que les autres, même si son histoire a été marquée par le christianisme. Mais ça, bon, c'est quoi, 2000 ans? Qu'est-ce que c'est 2000 ans sur les millions d'années de l'histoire de l'humanité? Donc, voilà. Et donc, on est gêné. Si on dit que Jésus était le point de référence de Raymond VII, il y en a qui disent, pardon, Jésus, Raymond VII, qu'est-ce que, il avait plus souvent l'épée à la main, ou bien il allait brûler des hérétiques, c'était pas tout à fait Jésus, etc. Et on est gêné par cette image que l'on a. Et notamment quand il s'agit de croisade, parce que qui dit croisade dit mort, hein, c'est que ce soit la croisade contre les Albigeois. Bon, eh bien, les seigneurs du Nord sont venus en France et ils ont trucidé des tas et des tas disons, d'Occitans. Donc, la mort se pose pour ceux qui sont morts, mais la question de la mort se pose pour ceux qui risquent de mourir. Et donc, on a tendance, quand on pense à sa propre mort ou à la mort de gens de sa famille, de sa dynastie, par exemple, quand il s'agit d'aristocrates comme Raymond VII, ou même d'une cité, il y a des cités qui ont été détruites, qui n'ont pas été reconstruites. Qu'est-ce que ça signifie, la mort? Et alors, on a tendance à vouloir faire un bilan. Je dis, à quoi ça a servi? 50 ans là, à quoi ça... voilà. Et donc, on a tendance à prendre des références, à se comparer, à recevoir des règles qu'on a reçues. Nous, en France, on a été habitués à prendre comme référence les règles de l'Église catholique. Et donc, est-ce que j'ai vécu en bon chrétien? Est-ce qu'on a vécu en bon chrétien? Quelles sont nos références? Et je me rends compte, j'en ai pris, en préparant ces conférences, là, j'en ai pris un peu plus conscience que... lorsque on parle de Raymond VII, par exemple, il y a 800 ans, et qu'on emploie des mots qui sont marqués par la religion, on a du mal à les faire comprendre 800 ans plus tard à nous aujourd'hui. Si je dis Jésus, par exemple, si je dis que Raymond VII a eu comme étalon pour se juger, pour ou comme référence pour sa vie, etc., si je dis qu'il a pris Jésus... je vois des grands yeux s'ouvrir et dire « Attends, faut pas exagérer. » À la rigueur, qu'on le dise de Saint-Louis, puisqu'il a été canonisé par l'Église, mais Raymond VII, non. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup, on met Jésus dans une sphère qui n'est pas la sphère normale de chacun de nous. Et c'est une sphère religieuse. Or, pour beaucoup d'entre nous, la religion chrétienne n'est plus une référence. Disons que même pour même si on n'est pas comment dirais-je chrétien, si on n'a pas abandonné en quelque sorte son baptême et l'Église ou le mariage à l'Église, etc., on a quand même dans la tête par-ci par-là des valeurs sur la pauvreté vue par l'Église, des choses comme ça, quoi. Et donc, on a du mal à imaginer comment Raymond VII, par exemple, puisqu'il s'agit de lui, comment Raymond VII pouvait prendre Jésus comme référence alors qu'il était là à défendre les hérétiques, il était là à se battre avec l'Église, à être excommunié en permanence, à cogner sur les croisés, enfin, etc., etc., quoi. Et justement, ça me paraît extrêmement important à la fois de clarifier cela et également de le clarifier par rapport à nous aujourd'hui. Parce que je pense, vous vous en rendez compte, ceux qui suivent les émissions, que pour moi, Raymond VII est une référence. Je dis pas que c'est l'étalon sur lequel je juge mon existence, pas jusque-là, mais quand même, c'est une référence. Et donc, c'est important de clarifier ça. Avant d'aller plus loin, nous nous arrêtons une minute.
CFM. CFM. CFM Radio. CFM Corde.
C'est la routine avec ton célibat. Tu voudrais le plaquer pour une jolie fille plutôt sympa. Ton pote marié t'envie, lui, depuis 100 nuits. La passion est partie, reste la bague au doigt. Il irait jusqu'au bout du monde pour chercher ce qu'il a. Il veut jeter son job alors que toi t'en as même pas. Insatisfait à vie, est-ce une maladie? Un virus aguerri qui ne se guérit pas. Alors il fume, des vogues hallucinogènes dans la brume pour embaumer ses veines. Alors il fume, des vogues hallucinogènes dans la brume pour embaumer ses peines. C'était un enfant roi. Maintenant c'est un type aigri qui ne sait pas faire de choix. Insatisfait à vie, c'est une maladie. Un virus aguerri qui ne se guérit pas. Et il veut plus, c'est toujours plus. Une seule chose suffit pas. S'il peut toucher la lune, il la jettera quand il l'aura. Puis l'aura est partie, elle et les petits. Qu'est-ce qu'il aimait sa vie quand ils étaient là. Alors il fume, des vogues hallucinogènes dans la brume pour embaumer ses veines. Alors il fume, des vogues hallucinogènes dans la brume pour embaumer ses peines. Allez Laura, reviens. Je serai un mec bien. Allez, allez Laura, reviens. Je promets, je me sens pas vraiment bien. Alors il fume, insatisfait la vie dans la brume. Oui, c'est une maladie. Alors il fume, insatisfait la vie dans la brume.
1222, Michel Bonnet. Nous continuons donc à essayer de percer un peu le, pas le mystère, mais le cœur, les pensées profondes de Raymond VII. Et je disais qu'il fallait qu'on fasse un effort particulier, parce que l'Église, justement, notre habitude de vivre dans une civilisation marquée par le christianisme, ou même peut-être par une éducation chrétienne pour chacun de nous, donc c'est difficile de se remettre à la place de Raymond VII il y a 800 ans. Parce que justement, on est, il y a au 11e, 12e siècle, enfin cette époque-là, on n'est pas à 15 ou 20 ans près, oui, mais on est à une époque charnière, ça je l'ai répété assez souvent, on s'en rend pas compte, mais on arrive à la fin d'une époque qui est partie du temps des apôtres et des amis de Jésus, et qui ont construit, à partir de cette amitié avec Jésus, de cette amitié entre eux, qui ont construit une communauté qui est devenue une église, qui a été prise en main par le pouvoir romain, puis les différents pouvoirs qu'on a eus, Clovis et Clotilde en France, par exemple, et que dire alors si on va jusqu'à Charlemagne, où là, l'église et la royauté, ça faisait qu'un, quoi. Et on arrive justement à une époque, à la fin du 11e siècle, 12e siècle, où l'Église dit, mais attention, il faudrait quand même, bon, il y a des choses qu'il faut réparer, arranger, ça va plus du tout. Si Jésus revenait, et il va revenir, il serait pas content. Et il y a des gens qui se sont mis à réfléchir à ça, à se dire, attends, l'Église, elle dit ça, mais Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Et on s'est intéressé, c'est une époque où on s'intéresse énormément à la parole de Dieu, disant à Jésus. Et il se trouve que là-dessus, tout d'un coup, il y a des hommes qui, en lisant certains passages, certaines paroles, certains passages de l'Évangile, certaines paroles de Jésus, vous voyez, va vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, allez, attention, il faut choisir entre Dieu ou l'argent, enfin, toutes ces, il y a beaucoup, le bon samaritain, beaucoup d'histoires comme ça, qui nous mettent en face de Jésus, et il y a des gens, à cette époque-là, des seigneurs, des gens de l'aristocratie, des gens du milieu habituel de Raymond VII, des gens comme Raymond VII, de grands seigneurs, hein, et qui quittent absolument tout. Ils abandonnent leur château, leur richesse, ils les donnent à l'Église ou ils les donnent à droite, à gauche, à leur dynastie, à leur famille, etc. Et ils décident de vivre le plus possible comme si Jésus était à côté d'eux, comme avec Jésus. Ils prennent Jésus comme référence, comme étalon. Mais à partir de là, ils vont reconstruire de nouvelles communautés. C'est un énorme changement pour l'Église, et vu la place de l'Église dans la civilisation, disons, d'Occitan, d'Occident à l'époque, la France et les pays européens, quoi, ça fait d'énormes changements. Et voilà, tout d'un coup, des gars, on pense à Darbrissel, par exemple, et qui a lancé l'abbaye de Fontevraud, on en a beaucoup parlé, puisque c'est là que Jeanne, la maman de Raymond VII, est enterrée, lui aussi, en fait, etc. Mais il n'y a pas que ça. Tout le monde connaît, ou à peu près quand même, je pense aujourd'hui, la vie de saint François d'Assise, un peu. Et on a l'image d'un moine qui a tout donné pour la pauvreté. Dans les documents, on l'appelle le poverello, le plus pauvre des pauvres, etc. Et donc on est à une époque où tout d'un coup, pour beaucoup de gens, pour un certain nombre de gens, ce qui intéresse, c'est plus la parole de l'Église, au sujet de Dieu, au sujet de la vie, au sujet de la mort, c'est plus cette parole-là, c'est plus les commandements de l'Église qui sont les talons de référence, mais la parole de Jésus. Ils cherchent la parole ou la vie de Jésus, voilà. Et donc il y a une recherche pour coller au maximum avec Jésus et... Là-dessus, vu qu'on est à l'époque de François d'Assise et de Raymond VII, évidemment, on est obligé de mettre en relation Raymond VII et François d'Assise, parce que il y a des tas et des tas de liens qui se sont tissés entre les deux et entre l'Occitanie et le comté de Toulouse, et puis François d'Assise et les franciscains qui sont là. Alors, ça, tout d'un coup, c'est difficile à expliquer, parce que pour nous, quand on pense à François d'Assise, on pense à un moine. Hein, et l'image, la première image qu'on a de François d'Assise, c'est des peintures de Giotto ou des choses comme ça, des statues qu'on a vues dans une église. Où aujourd'hui, le pape, quand il parle de François d'Assise, il donne une certaine image de François d'Assise. Or, dans la réalité, si on cherche dans la réalité, la vie de François d'Assise, c'était la vie d'un SDF d'aujourd'hui. Il n'avait pas un endroit où dormir, il n'avait pas de cuisine particulière, de maison particulière, il mangeait ce qu'il trouvait ou ce qu'on lui donnait. Un jour c'était bien, l'autre jour, le lendemain, ça valait pas lourd peut-être. Voilà. Et donc, on a une image très différente. Or, pour François d'Assise, comme pour beaucoup de gens de cette époque-là, pour un certain nombre de gens de cette époque-là, notamment, puisqu'on est sur le comté de Toulouse et le 13e, notamment pour ce qu'on appelle les cathares, ou les hérétiques en général, ce sont donc des gens qui accordent plus de place à la rencontre avec Jésus que à la rencontre ou à l'union avec l'Église. Et François d'Assise, lui, il a un lien en parole qui est extrêmement fort, puisqu'il dit « Dieu, c'est pas le Très-Haut. » On l'appelle toujours le Très-Haut, là-haut, il est dans le ciel, Très-Haut. Non, Dieu, c'est le Très-Bas. Le Très-Bas, c'est-à-dire celui que j'ai à côté de moi quand je rencontre un pauvre, quand je rencontre un mendiant, quand je rencontre un lépreux, etc. Pourquoi ça me serait plus facile de faire la bise à la comtesse de Foix, Esclarmonde, plutôt qu'à un lépreux que je rencontre au pied du château? Non, il n'y a pas de raison. Voilà. Et donc une radicalité là-dessus, et qui fait que le François d'Assise et les gens qui écoutent, qui sont influencés par François d'Assise, ont au fond d'eux ce désir d'une rencontre amicale, je dirais même, il faut aller plus loin, une rencontre dans la tendresse avec Jésus. Les gens d'Assise, en 1222, c'est donc l'époque de la fondation de Cordes, ça nous concerne un peu, eh bien pour Noël, François d'Assise a décidé, chose qui était interdite par l'Église, mais de faire une pièce de théâtre au milieu de la messe où on allait jouer la nativité. Et c'est ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui, la crèche. Et on a même ici, en Pays Cordé, même en 2022-2023, on visite les crèches qu'il y a dans un certain nombre d'églises pour rappeler cette image. Or, les gens de cette époque-là ont été marqués, on le trouve dans tous les manuscrits, dans tous les marqués, par le sermon. On peut employer le mot par les paroles de François d'Assise qui présentait Jésus d'abord comme quelqu'un qui donnait de la tendresse et qui voulait recevoir de la tendresse de notre part. Vous voyez comment tout d'un coup, du passage des lois imposées par l'Église, et Dieu sait si on en a assez parlé avec avec les hérétiques, avec les croisades, avec tout ce qu'il y avait à cette époque-là, sans parler des universitaires et tout le reste. Bref, il y avait d'un côté les commandements de l'Église, et puis là, tout d'un coup, on se retrouve avec un Jésus qui est un univers de tendresse, un Jésus qui donne comme étalon l'amour. Ça bouleverse. Si on y croit, si on le prend comme étalon, ça va changer des choses, et c'est ce qui se passe pour Raymond VII. Nous nous arrêtons une minute avant de continuer.
CFM Corde, CFM, l'esprit rock.
En accosté, pas moins 10 degrés dehors. En respirant du formol et du lilas, nous pouvions enfin passer nos mains à l'eau chaude. Nous pouvions enfin passer nos mains à l'eau chaude. À peine le pied posé, nous nous jetions chez Elsa, oui, pour nous laisser couler dans le parfum de ses draps. Nous pouvions enfin nous saouler, penser à rien d'autre, oh non. Nous pouvions enfin nous saouler et ne penser à rien d'autre. À rien d'autre. Notre pays évanoui, nous sommes revenus sur nos pas pour squatter le fond des prames en bras de chemise et dans le froid. Nos regards de chiens usés nous réchauffaient les os. Nos regards de chiens usés nous réchauffaient les os, les os, les os. Yeah.
Cordes, 1222, Michel Bonnet. Je disais donc qu'on était, à l'époque de Raymond VII, à un tournant, un changement extrêmement important au niveau de l'Église, de la relation de l'Église avec les chrétiens et de la relation de l'Église et des chrétiens avec Jésus, le fondateur du christianisme, au moins officiellement. Et ça, on a du mal à se rendre compte du bouleversement que ça représente. Parce que tout d'un coup, alors que l'Église disait « quand vous allez mourir, vous allez rencontrer Jésus qui va vous dire commandement numéro 1, commandement numéro 2, commandement numéro 3, est-ce que tu as obéi, est-ce que tu l'as pas obéi, qu'est-ce que tu as fait, etc., etc. » Au lieu de ça, tout d'un coup, il y a de plus en plus de gens, des gens importants, des seigneurs, des rois, des comtes, des intellectuels dans les universités, des banquiers, des gens dans le commerce international, bref, des gens qui réfléchissent, qui prennent, qui ont le temps, qui sont pas éreintés par le travail manuel ou le travail physique de paysans, etc., et qui ont le temps de réfléchir, veulent réfléchir. Et tout d'un coup, ils disent « Mais non, Jésus, c'est pas la question qu'il va me poser quand je vais mourir. Jésus va me dire, est-ce que tu m'aimes? Et est-ce que moi, je vais être capable de lui dire, oui, je t'aime? » Mais voyez, de suite, on est dans un autre univers. Moi, vous savez, par exemple, pour prendre un exemple un peu, en souriant. Bon, je suis marié avec une Japonaise. Le jour où je veux lui faire plaisir, mettons que c'est sa fête, son anniversaire, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je sais que, par exemple, si je lui, pour lui dire mon affection, ma tendresse, etc., mais je vais lui dire, tiens, on va manger au restaurant japonais. Je vais pas prendre le contrat de mariage en disant, attention, en France, dans la République française, article 1 du contrat de mariage, point, etc., etc. Non, c'est pas comme ça que je vais lui dire mon amour. Hein. C'est lui trouver quelque chose qui lui a fait plaisir. Alors, vous voyez, de suite, ça change profondément la relation des gens, de chacun d'entre nous, quand on est rentré dans cette optique, non pas de commandement de l'Église, mais de dialogue, de tendresse, de dialogue d'amour, vous voyez, avec Jésus. Et il se trouve que ça a marqué profondément ça, c'est-à-dire cette attitude de François, qui est résumée par François d'Assise, qui vivait à l'époque de Raymond VII, elle a marqué énormément Raymond VII. Beaucoup plus peut-être Raymond VI, mais Raymond VI, ça s'est moins vu extérieurement, tandis que Raymond VII, lui, quand on va dans les détails, c'était très profond. On a un signe très marquant, parce que qui est énorme au point de vue historique, c'est que en 1222, les comtes de Toulouse, Raymond VI juste avant de mourir et Raymond VII là à ce moment-là quoi, dans le courant de l'été de 1222, ils ont fait venir une délégation de franciscains, ils leur ont donné, enfin ils l'ont fait donner par des seigneurs, des vassaux, bien sûr, mais enfin c'est toujours les comtes de Toulouse qui ont pris la décision et ils leur ont donné un terrain. Un énorme terrain à l'intérieur des murailles de Toulouse, et donc c'est pas rien, c'est pas dans la campagne, comme avec Grand-Selle ou des choses comme ça, non. Ils lui ont donné ça pour créer un couvent important à Toulouse. Et à partir de là, les franciscains ont fait 2, 3, 4 couvents, et puis ils ont essaimé et ils ont mis des couvents dans toutes les communautés, toutes les cités qui existaient déjà, certaines, d'autres au fur et à mesure que Raymond VII ou les autres, ou Alphonse de Poitiers, d'autres, créaient une cité, les franciscains arrivaient et animaient de l'intérieur la cité avec cet esprit de François d'Assise. Et lorsque on dit que Jésus, c'est quelqu'un qui va nous poser une question au moment de la mort, parce que la mort, ça reste quand même une habitude, je dirais, de tout le monde jusqu'à aujourd'hui. On sait qu'on va mourir, et les gens le savaient aussi. Donc, au moment de la mort, on sait que à cette époque-là, Jésus va poser une question sur notre amour. Or, cet amour-là, eh bien, comment on le vit? On le vit en ayant de la tendresse, en ayant de l'amour entre nous. D'où, pour les franciscains, ce qui était important, c'était de dire, dans les cités où les gens se rassemblent, il faut qu'ils puissent vivre ensemble le plus possible, dans le partage, dans la tolérance, dans l'amitié, dans l'amour. À ce moment-là, les sermons qu'il faisait, toute l'animation qu'il faisait, et surtout l'exemple qu'ils essayaient de donner d'une vie fraternelle en petite communauté de 4, 5, 6 personnes, etc., ça marquait. C'est devenu, à l'époque de Raymond VII, au XIIIe siècle, une marque des franciscains, c'est-à-dire qu'ils étaient toujours, c'était les moines des cités, les moines des cités, alors que les bénédictins, les cisterciens, etc., partaient à la campagne, créaient des villages, créaient des grandes abbayes, etc., etc. Et donc, on se retrouve, vous voyez, très lié avec le projet de Raymond VII, parce que on fait pas venir les franciscains, surtout en pleine bagarre avec l'Église, quand on est la moitié du temps excommunié, on fait pas venir des religieux pour les mettre au centre de la vie d'une cité, la vie politique d'une cité. Vous voyez. Or, on le sait, on a assez parlé. La marque de Raymond VII, c'est quand je crée une cité, quand je crée Cordes, je mets un terrain neutre, un terrain vide. Je me crée un vide au milieu de la cité pour que les gens qui sont autour puissent se rencontrer en toute liberté. Je résume évidemment très très vite, mais c'est ça la base de l'urbanisme de Raymond VII. Et donc, on voit très bien comment cette base-là, c'est une base spirituelle. Parce qu'il va pas dire, allez, venez à Cordes, et puis place de la Halle, aimez-vous les uns les autres et aimez Jésus par-dessus tout. Non, il dit, allez, faites du tissage et puis échangez vos produits, faites du blé, du pain, etc. Enfin, vivez ensemble et partagez le plus possible. Et comme ça s'est animé dans toutes les cités, Cordes y compris, c'est animé par une petite équipe de franciscains qui ont posé comme priorité absolue la pauvreté, ça marque. Parce que la pauvreté, ça veut dire ne rien prendre qui puisse être un obstacle entre celui qui est à côté de moi et moi, entre nous deux. Il n'y a plus de moi et de toi, il n'y a plus de nous, moi et lui, il y a nous. Nous qui échangeons, nous qui chantons ensemble, faisons des poésies ensemble, dansons ensemble, enfin, etc., etc. Et donc, voyez comment il a fallu quand même pas mal d'années, depuis le temps de Beaucaire en 1216 jusqu'en 22, ça... Si vous me direz, c'est pas très long, mais enfin, 5-6 ans, c'est ce qu'il faut pour découvrir François d'Assise, parce qu'il est quand même en Italie, nous on est ici. Bon, l'Occitanie, ça, il faudrait qu'on rattache davantage l'Italie à l'Occitanie dans nos façons de penser. Les Cathares le faisaient, ils allaient de Toulouse à Lombardie pour un oui, pour un non. Les intellectuels se changeaient, s'écrivaient. Il y a toute une vie d'échanges, de rapports, de courriers. Par exemple, lorsqu'on voit dans les manuscrits qu'on découvre la masse de courriers qui étaient échangés entre les gens, et où on parlait effectivement de la vie de la cité, et de la vie religieuse, et de la vie chrétienne, etc. Donc, il y avait toute une ambiance pour justement aller dans cette optique qui était résumée par François d'Assise avec un mot, la pauvreté. On fait le vide autour de soi, on fait le vide en soi pour permettre à l'autre, aux autres de venir avec nous, de venir chez nous. On accueille celui qui est différent à l'intérieur de soi-même. C'est pour ça que l'image de Jésus, le pèlerin, c'est l'image de quelqu'un qui risque d'arriver sans prévenir. Oui. On va revenir un peu plus là-dessus dans une minute.
CFM.
CFM Radio.
CFM Corde.
Michel Bonnet. Nous disions donc que Raymond VII, sous l'influence des changements dans l'Église, dans le monde de l'époque, et sous l'influence en particulier de l'expérience de François d'Assise et du courant franciscain qu'il y a eu, bon, je résume évidemment tout ça, c'est très à 800 ans de distance, et on est d'accord. Mais voilà, Raymond VII, là, a pris l'habitude, au fur et à mesure qu'il avançait dans la vie, a pris l'habitude d'avoir comme référence pour juger de sa politique, pour savoir si ce qu'il faisait avait de la valeur ou pas, si au moment de la mort, parce qu'il savait que la mort allait arriver un jour ou l'autre et que il avait l'habitude de penser qu'il faudrait rendre des comptes, pour savoir si à la mort Jésus allait arriver en lui disant quelque chose, en lui demandant, disons, des mots d'amour pour aller vite, et non pas en lui demandant un bilan comptable. Il va pas lui demander « tu as gagné combien d'années d'indulgence » ou « tu as payé combien de deniers à l'Église pour monter au ciel ». Non, c'est pas ça. C'est « est-ce que tu m'aimes et donc est-ce que tu aimes ceux que j'ai mis autour de toi ?» Voilà. Ça, pour nous, c'est difficile à comprendre, au sens où, bon, ben, c'est bien, c'était au temps de Raymond VII, c'était au temps du Moyen-Âge, l'Église, elle faisait la pluie et le beau temps, etc., etc. C'était de la religion, mais maintenant, j'en suis sorti. Moi, ça ne me concerne, pour beaucoup d'entre nous, hein, moi, la religion, ça ne me concerne pas. C'est fini, cette histoire-là. Et qu'est-ce que je fais? Mais je me retrouve quand même avec une double question. Aujourd'hui, non pas en 1222, mais en 2022-23, je dis, quand je vais mourir, qu'est-ce qui va se passer? On est quand même plus ou moins, même si on fanfaronne en disant « Oh, la mort, je m'en fais, si j'en ai pas peur », on a petit, quand même un petit quelque chose quelque part quand ça arrive, hein, ou quand on y pense. Et puis surtout, bien plus important que ça, finalement, c'est le monde dans lequel je m'engage aujourd'hui, dans lequel j'engage mes enfants par l'éducation que je leur donne, dans lequel ce monde que je suis en train de construire, par mon travail professionnel, etc., etc., et par tout le baratin qu'on fait à CFM Radio pour changer les, pour aider les gens à réfléchir, etc. Quel est ce monde où on va? Et là, on est tout près de la situation, même je dirais exactement dans la même situation qu'au temps de Raymond VII, c'est la panique. On ne sait pas où on va. On se retrouve devant un monde présent qui va de plus en plus mal, quoi qu'on regarde, et il n'y a pas besoin de parler de CO2, d'inondation, de tremblement de terre, etc., mais tout pour se déplacer, l'inflation est là, enfin, on se demande vraiment où va le monde, qu'est-ce qui va devenir, et donc là-dedans, nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Et finalement, par rapport à ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que on ne sait plus quoi prendre, qui prendre comme étalon, comme référence. Jusqu'à maintenant plus ou moins, tant que on pensait que c'était avec Dieu, bon, on s'arrangerait avec Dieu, on ferait des prières, on obéirait aux commandements de Dieu et de l'Église, etc., etc. Mais là maintenant, plus on a été dans la religion, plus on a de difficultés à se dire, mais demain, qu'est-ce qui va se passer? Parce que tout d'un coup, à la place de Jésus, j'ai envie de dire, il faut dire le cosmos, la planète. Qui commande notre vie du matin au soir? Qui commande la vie de nos communes, de nos pays, de nos, du monde, de la planète? Et là-dessus, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que tout d'un coup, si on me parle d'écologie, de déforestation, de respect de la biodiversité, des problèmes du CO2, de tout ça, de l'évolution des techniques, de la montée dans les étoiles, aller s'installer sur Mars ou je sais pas quoi, des tas de choses, quoi. Et on se dit, mais par rapport à ça, on n'y peut rien. On commence à sentir, ben je pense, on commence à sentir qu'on n'y peut rien et qu'il faut faire des changements radicaux. Et je pense à ce moment-là que vous êtes aussi au courant que moi des conférences, par exemple, de Aurélien Barraud, il n'y a pas que lui, mais enfin... Il est un des hommes aujourd'hui, un des chercheurs, un des savants, un des hommes qu'on peut respecter à tous les points de vue, parce que vraiment c'est presque un idéal d'homme qu'on a devant nous. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il faut faire un changement radical en profondeur, exactement les paroles de François d'Assise qui dit: arrêtons de voir Dieu le Très-Haut et regardons-le comme le très bas. Non pas le très haut, mais le très bas. Or, nous, aujourd'hui, on pense satellite et vive le très haut, on pense station spatiale, etc., etc. Et le très haut, le très riche, le très puissant, le très rapide, aller de toujours plus loin, toujours plus, pour les vacances, toujours plus mirobolant, un salaire toujours plus, un revenu toujours plus important, etc., etc. Et là-dessus, bon, on vote, on continue à voter, à croire que ça va se résoudre par le Très-Haut. Alors que, justement, François d'Assise, et je dirais aujourd'hui Aurélien Barreau et pas mal de gens, parce qu'il n'y a pas que François d'Assise au XIIIe siècle, il n'y a pas que Raymond VII au Moyen-Âge, et il n'y a pas qu'Aurélien Barreau au XXIe siècle. Hein. Mais voilà, des gens qui réfléchissent, etc., de plus en plus, et des jeunes parmi eux, de plus en plus, qui disent non, arrêtons de penser le très haut et regardons le très bas. Le très bas, c'est quoi? C'est celui qu'on a à côté de nous. C'est ça le problème. C'est celui avec lequel on a le moins de différence de niveau. De niveau de cylindrée pour la voiture, de niveau de vie pour la nourriture, si on choisit tel hôtel, tel resto, telle façon de vivre, pourquoi s'habiller comme ça, etc., etc. Et c'est ça, cette vision d'aller sur, pour employer le mot religieux qu'on employait autrefois et qu'on disait la pauvreté. Non, c'est la pauvreté, c'est pas de manquer de quelque chose, c'est de chercher le maximum de sobriété, c'est-à-dire le maximum, diminuer le plus possible l'écart qu'il peut y avoir entre les gens qui sont autour de moi et moi, ou entre les gens entre eux. C'est-à-dire donner la priorité, dès qu'il y a un problème, à celui qui est le plus faible. Par exemple, bon, en ce moment, sur la 4C, bon, donner la priorité à ceux qui n'ont pas des moyens de locomotion. Et Dieu sait si ça existe, le nombre de personnes qui peuvent pas se déplacer et qui en ont absolument besoin. Ça, c'est une priorité. Et on va pas prévoir la fin du CO2 et les problèmes du changement climatique, etc., sans résoudre ce problème de la mobilité d'un certain nombre de personnes. Le problème de l'échange de l'information, des tas de choses comme ça, dans l'élaboration de notre vie sur la commune de Cordes ou sur la communauté des communes de la 4C ou sur la région Midi-Pyrénées et la région Occitanie et la France et l'Europe, etc. Et le monde d'aujourd'hui, voilà, il tient à ça qui est tout petit, qui est tout proche, c'est-à-dire celui, les personnes qui sont à côté de moi, qui n'ont aucune séparation par rapport à moi. Raymond VII disait le vide, et le vide de la place de la Bride. On vit sur la place de la Bride, il n'y a pas de différence quand on est debout sur la place. Il ne devrait pas y avoir de différence quand on se tient sur la place de la Bride à plusieurs. C'est le très bas qui est là au milieu de, qui peut être là au milieu de nous, à condition qu'on change complètement. Et on y est aidé aujourd'hui. Ça, c'est un de mes refrains, mais je vais certainement pas en parler maintenant. Mais la pensée mathématique aujourd'hui, l'univers quantique, nous amène à ça. Nous amène à dire l'espace même, non, ça n'existe plus. L'espace même, ça n'existe plus. On doit s'attendre justement à l'inconnu. Et c'est à partir de cet inconnu qu'il y a des forces qui vont construire le monde et nous construire avec. Voilà, je voulais faire ce lien avec Raymond VII en nous disant, en vous proposant que chaque fois que vous rencontrez le mot Jésus dans la vie de Raymond VII, vous le remplacez par celui de cosmos ou de planète Terre. C'était Cordes 1222, Michel Bonnet. Au revoir.
Gets you girls, it's true, I can assure, I may not look like much on the street, but once they hear me sing, mission complete. La la. Average look. to find another hook for every 20 hours you invest. I guarantee an hour with the best. So get to work,
so get to work,
my ugly friend,
my ugly friend.
Find a guitar,
find a guitar,
and start a band,
and start a band.
We all need love,
we all need love.
Whatever works,
whatever works.
The truth it hurts. Music gets you girls, the ones who are beautiful and tall. They don't need to do anything at all. And who can blame them? It's not their fault. But the rest of us gotta hustle with charm.
La la.
Office job, and let me tell you, the nights were long. Now I sing and play guitar, and the world has opened, legs and all. So get to work,
so get to work,
my ugly friend,
my ugly friend.
Find a guitar,
find a guitar,
and start a band,
and start a band.
We all need love,
we all need love.
Whatever works,
whatever works.
The truth it hurts. Music gets you girls,
music gets you girls.
The truth it hurts. Music gets you girls.
La la, la 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 la, la la.